Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. L'automne est arrivé et avec lui l'une des périodes de l'année les plus intenses en termes d'événements musicaux, celle où redémarrent plusieurs saisons de concerts et d'opéras et où se tiennent quelques festivals à Toulouse et autour. Du 26 septembre au 5 octobre au Théâtre du Capitole vous attendent 5 représentations de Thaïs, l'opéra de Jules Massenet. Le samedi 27 septembre, Tarmo Peltokoski va diriger le premier concert de la saison de l'Orchestre National du Capitole à la Halle aux Grains. Le lundi 29, c'est la saison des Clés de Saint-Pierre qui commence à la Chapelle des Carmélites de Toulouse. Et concernant les festivals, Piano Jacobin se poursuit jusqu'au 30 septembre. Juste avant que Toulouse et Zorg ne prennent la suite du 1er au 12 octobre, presque en même temps que Passion Baroque, dont la 11e édition se tient du 2 au 12 octobre à Montauban et dans le Tarn-et-Garonne. J'ai justement le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Marc Andrieux, fondateur et directeur artistique des Passions, l'orchestre baroque de Montauban, et fondateur et directeur artistique de Passion Baroque. À ses côtés, le toujours fidèle Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Avec Serge, nous allons revenir tout de suite sur l'actualité musicale récente. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bonjour Serge, bonjour Jean-Marc, très heureux de vous retrouver tous les deux pour ce numéro de Mélomanie. Ce retour arrière est consacré à un concert de la 46e édition de Piano Jacobin, auquel vous avez assisté Serge, celui d'un habitué du festival, le grand pianiste argentin Nelson Gerner. Il était programmé le jeudi 11 septembre. Le programme était d'essence très romantique, mais pas exclusivement romantique Serge.
Non, effectivement, alors c'est un programme intelligemment construit par ce grand pianiste dont il faut préciser qu'on l'a vu très souvent, programmé par le festival Piano Jacobin, effectivement. Et donc il y a eu deux parties à ce concert. La première partie, deux compositeurs finalement assez proches dans l'esprit, que sont Chopin et Schumann. De Chopin, il a d'abord joué la Fantaisie en fa mineur, l'opus 49, une œuvre magnifique, hein, et dont il a su souligner toute la diversité de la partition, grâce à un jeu que, pour ma part, j'ai trouvé presque orchestral, vraiment avec un déploiement de sonorités, de couleurs impressionnant. Et ensuite, il a joué de nouveau une autre fantaisie, la fantaisie celle-là en Do majeur, opus 17, de Robert Schumann. Cette fantaisie qui est en fait un cri d'amour que Robert a adressé à Clara, Clara Wieck, qui va devenir son épouse malgré les réticences de son futur beau-père. Là, vraiment, il a exalté en quelque sorte, l'interprète, hein, Nelson Gerner, a exalté le romantisme qui est à la fois poétique et ardent, sauf pour le final qui s'appelle Langsam getragen, donc lent et soutenu, qu'il a joué comme s'il s'agissait d'une profonde réflexion, et alors avec une émotion vraiment touchante. Donc ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie, dans la seconde partie, il a rapproché deux compositeurs que d'habitude on ne rapproche pas du tout, Maurice Ravel et Franz Liszt. Et pourtant, il a su trouver un lien entre les deux, et ce lien, c'est la valse, tout simplement. Et donc, il a commencé par jouer les 8 valses nobles et sentimentales, qu'il a également orchestrées plus tard. Et le titre, il faut quand même le rappeler, est un hommage à Franz Schubert, qui, lui, était l'auteur de 2 recueils intitulés séparément et respectivement « Valse sentimentale » et « Valse noble ». Donc, alors, c'est vraiment une partition ravelienne, rutilante, d'une grande beauté. Et je trouve qu'elle représente bien le caractère que lui a trouvé Henri de Régnier. Et il a indiqué que c'était le plaisir délicieux et toujours nouveau d'une occupation inutile. Je trouve que vraiment ça cadre très bien avec l'œuvre. Et donc il a joué cette succession de pièces, donc 8 pièces, hein, courtes, mais 8 pièces séparées, avec vraiment une grande finesse, avec le vertige par moment de la valse, du rythme de la valse, et donc élégance, on pourrait dire, sourire et langueur, qui alterne donc avec finesse dans ses 8 valses. Et puis ensuite, il a joué 3 pièces de Franz Liszt, avec la première donc qui prolonge en quelque sorte ce qui a précédé. Il s'agit de la valse oubliée numéro 2. Et là, vraiment avec beaucoup de finesse aussi et de tendresse. Ce n'est pas le Franz Liszt échevelé et grand virtuose. Et puis ensuite, il y a eu l'étude de concert numéro 2 qui est sous-titrée La leggerezza, donc la légèreté, à la fois virtuose, bien sûr, mais vraiment avec grâce. Et puis enfin, il a terminé avec alors, une véritable apothéose pianistique de virtuosité qui est la Rhapsodie hongroise numéro 6. Alors là, évidemment, c'était un déchaînement absolu qui a soulevé l'enthousiasme du public, qui a rappelé avec insistance le musicien et qui est revenu et qui a finalement offert une salve de 3 bis, pas moins de 3 bis, avec l'un des magnifiques intermezzi de fin de vie de Johannes Brahms. Ce sont des pièces somptueuses, ces pièces pleines de réflexion, de finesse, de profondeur. Et puis, deux études colorées, cette fois, de Sergueï Rachmaninov. Donc, un beau trio final qui a de nouveau suscité l'enthousiasme du public. Donc, vraiment, on peut dire que Nelson Gerner confirme son statut de grand pianiste et plus que ça, de grand musicien.
Et il est toujours le bienvenu à Toulouse. Je ne saurais plus dire combien de fois on l'a vu ces dernières années.
Voilà, très souvent.
Piano jeu commun ou aux grands interprètes aussi d'ailleurs. En tout cas, c'est un pianiste qu'on apprécie beaucoup dans la Ville Rose. Voici l'une des pièces que Nelson Gerner a interprétée le 11 septembre au cloître des Jacobins, la très belle valse oubliée numéro 2 de Franz Liszt. Valse oubliée numéro 2 de Franz Liszt, joué par Nelson Gerner, un extrait du programme que le grand pianiste argentin a donné le 11 septembre à Piano Jacobin. Je rappelle que le festival se poursuit jusqu'au mardi 30 septembre. Il reste 4 concerts, les 24, 26, 29 et 30, pour vous faire plaisir. N'hésitez pas. Fin de cette première partie d'émission, une petite virgule musicale. Avant de revenir avec Serge Chosy et Jean-Marc Andrieux à l'antenne, restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite. Thank you.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie pour lequel je retrouve mes deux invités Serge Chosy et Jean-Marc Andrieux, fondateur et directeur artistique des Passions, l'orchestre baroque de Montauban. Jean-Marc est donc également le fondateur et directeur artistique du festival Passions baroques, dont la 11e édition a lieu du 2 au 12 octobre à Montauban et dans divers lieux du Tarn-et-Garonne. Jean-Marc, pas vraiment de thématique générale cette année, pas de sous-titres à la programmation, même si l'on y décèle tout de même une sorte d'invitation en voyage dans l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie baroque.
Oui, en effet. Jusqu'à maintenant, on essayait de trouver un thème pour les festivals, c'est un peu à la mode, on va dire. Et finalement, je me suis aperçu que c'était un peu limitateur et puis on pouvait se priver de belles choses. Bon, du coup, on n'a pas choisi de thème cette année pour la 11e édition. Et finalement, comme vous venez de le remarquer très pertinemment, il se dégage quand même cette idée de voyage dans l'Angleterre, dans l'Espagne, dans l'Italie. Et nous y reviendrons, j'imagine.
Oui, bien sûr. Alors, la programmation, on va la regarder dans le détail. Il y a des valeurs confirmées comme le poème harmonique, les passions de Montauban, mais aussi il y a des jeunes talents, l'ensemble Calico, l'ensemble Dulce Jubilo, le jeune orchestre baroque d'Europe. Et puis les lieux, alors je les évoquais à l'instant, donc le théâtre Lame de Gouges, un peu au centre de la programmation à Montauban.
Oui, bien sûr, deux concerts là, oui.
Et puis, des lieux du patrimoine montalbanais et tarn-et-garonnais. Donc, on aura l'église Saint-Jacques à Montauban.
Oui, c'est l'église emblématique qui a connu les vicissitudes des guerres de religion. Il y a des traces de deux boulets de canon tirés par Louis XIII en 1621. Mais l'église est toujours debout et accueille des concerts.
Voilà, il y a l'abbaye de Belle-Perche, lieu superbe vraiment, sur la commune de Cordes-Tolosane. Et puis, le musée Ingres-Bourdelle aussi.
Oui, là aussi,
les fleurons de l'architecture montalbanaise.
On est heureux aussi de pouvoir jouer dans une des belles salles de ce musée magnifique. C'est l'occasion d'ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, de venir le visiter. Ça vaut vraiment le coup.
Et oui, on peut faire concert et visite des expositions permanentes.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Et il y a une autre église, c'est l'église de Gibignargues à Puy-Cornet.
Oui, là, c'est un petit village, pas loin de Montauban, qui nous accueille chaque année. Je remercie d'ailleurs le maire de Puy-Cornet qui nous accueille dans cette délicieuse petite église qui est très, très bien pour accueillir les concerts.
Le festival ouvre donc le jeudi 2 octobre avec un double concert donné à 18h et à 19h15 eh bien au musée Ingres-Bourdelle, justement, par l'ensemble Calico, que nous allons découvrir à cette occasion, en tout cas pour ce qui me concerne, parce qu'il est de formation récente, je crois.
Oui, ce sont des jeunes, il y a deux membres de ce trio qui ont été élèves au Conservatoire de Montauban. Ça me fait d'autant plus plaisir de les accueillir.
En tant qu'ancien directeur du Conservatoire de Montauban.
Exactement, je les ai connus et j'avais très très grand plaisir à les entendre jouer lors des examens. Et j'aurais encore plus de plaisir à les entendre en concert, bien sûr. Voilà, Jeanne Le Goff qui a été élève en violon, très talentueuse, et son compagnon Étienne Manchon, qui est pianiste de jazz, figurez-vous.
Oui, oui.
Mais en fait, il y a une similitude entre l'accompagnement au piano ou à la guitare, au jazz, et à la pratique de la musique baroque, c'est la basse continue. C'est-à-dire qu'il y a une ligne de basse qui accompagne le chant, et cette ligne de basse, on la ponctue avec des accords qui sont chiffrés. C'est exactement comme une grille de jazz. Donc, Étienne Manchon est passé sans aucun souci de l'improvisation du jazz, des accords de jazz improvisés, à l'improvisation des accords de la musique baroque.
Alors, lui, il va officier au clavecin, hein, évidemment,
oui.
Pour ce concert. Et nous avons aussi un violiste, Joël Sidbon.
Joël Sidbon, qui va compléter ce trio et qui est aussi un jeune virtuose de la viole de gambe qu'on va réécouter évidemment avec grand plaisir, d'autant plus que c'est dans une des salles du musée Ingres-Bourdelle qui va résonner particulièrement bien pour ce trio. Pourquoi deux fois? Parce qu'il y aura tellement de monde qu'il faudra faire deux fois le concert, on a déjà anticipé.
Alors le programme est sous-titré « Mimesis », vous allez nous expliquer pourquoi.
C'est dans le temps, c'est un voyage dans le temps. Alors, c'est vrai que Mimesis, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Mimesis.
Je suppose qu'il y a un côté mimétique sans doute aux diverses compositions qui vont être abordées, puisqu'il y a du Rameau, il y a du Clément Jeannequin, il y a du Marin Marais,
oui.
Ou du Heinrich Bieber.
Oui, c'est très très éclectique leur proposition.
Et parce que je crois que c'est une musique qui qualifie d'imitative, d'après ce
oui.
que j'ai compris.
C'est ça, bien sûr. Ils vont, dans certaines pièces, comment dire, montrer un petit peu comment font les compositeurs pour imiter les bruits de la nature ou C'est ça.
Ouais, c'est ça, c'est la reproduction des sons de la nature, des sons et des chants, bien sûr, en priorité, sans doute.
Voilà, c'est ça.
Et puis,
c'est ça,
le bruit des activités humaines, dans une ville ou à la campagne aussi.
Les sons de cloche ou les choses comme ça. Ouais.
En tout cas, ce concert donc, est donné le jeudi 2 octobre à 18h à 19h15 au musée Ingres Bourdel. Et il est redonné le dimanche 5 à 20h30 en l'église de Gibignargues à Puy-Cornet, dont nous parlions tout à l'heure. Donc, vous avez trois chances pour le voir, ce concert.
Oui, et il ne faut pas oublier de réserver parce que je pense que les places seront vite...
Oui, ce n'est pas des grosses jauges. Hein.
Non, c'est 50-60 personnes.
La suite, c'est le samedi 4 octobre à 20h30 et vous mettez encore une jeune formation à l'honneur. Et là, c'est au théâtre Olympe de Gouges à Montauban, le jeune orchestre baroque européen qui, sauf erreur de ma part, doit se produire pour la première fois dans notre ex-région Midi-Pyrénées. En revanche, il est né d'une initiative en Occitanie que nous devons à l'ensemble Les Ombres, basée à Montpellier. Expliquez-nous un peu de quoi il retourne, Jean-Marc.
Oui, c'est nos amis des Ombres, donc Sylvain Sartre et Margot Blanchard, que je salue au passage, nos amis musiciens de Montpellier qui dirigent ce bel ensemble. Et ils ont eu cette très très bonne idée, cette initiative très heureuse, de réunir les meilleurs élèves des conservatoires européens pour former ce jeune orchestre baroque européen. On aura vraiment une très très grande chance de les entendre, parce que c'est pas souvent, comme vous l'avez dit, qu'on les entend dans la région. C'est peut-être la première fois, effectivement. Et d'autant plus de chance qu'on va entendre une œuvre qu'on entend très rarement.
Je la découvre.
Oui, beaucoup de monde va la découvrir. Il s'agit du premier opéra anglais. Ça mérite d'être remarqué. Cet opéra, on le doit à John Blow, qui a été le maître de Purcell.
Rien que ça.
Donc, rien que ça. Et d'ailleurs, le peu que j'ai entendu de l'œuvre, on sent déjà l'influence de la musique française sur la musique anglaise, d'une part. Et puis, on sent que Purcell a hérité déjà des dons magnifiques d'élégance de la musique de John Blow.
John Blow, qui était organiste à la chapelle royale de Westminster à Londres, et qui donc compose en 1683 ce qui est effectivement le premier opéra anglais, Vénus et Adonis, inspiré des métamorphoses d'Ovid. Ça va être évidemment en version concert, hein, précisons-le.
Oui, bien sûr. Oui, en version concert, oui.
Version concert dirigée par Sylvain Sartre que vous citiez à l'instant. Je vais citer le nom des quatre chanteurs. Donc il y aura Noël Drost en soprano, Félix Merle baryton, Arnaud Gluck alto et Adèle Hubert en soprano, ainsi qu'Alexandre Jamard en ténor. Et la plupart de nos auditeurs n'ayant sans doute jamais entendu ne serait-ce qu'un extrait de l'opéra Vénus et Adonis de John Blow, voici son chœur final, Mourn for their servant.
Thank you.
Mourn for Their Servant, chœur final de Vénus et Adonis, l'opéra de John Blow, que vous allez donc pouvoir entendre dans une version concert du Jeune Orchestre Baroque Européen, samedi 4 octobre à 20h30 au Théâtre Olympe de Gouges à Montauban. Rendez-vous suivant le vendredi 10 octobre, et c'est toujours à 20h30 au Théâtre Olympe de Gouges, avec le Poème Harmonique, la formation fondée et dirigée par le guitariste Vincent Dumestre. La France compte, comme vous le savez, sans doute de nombreux ensembles sur instruments anciens de grande qualité, et le Poème Harmonique en fait incontestablement partie. Jean-Marc, il propose un programme enregistré il y a une quinzaine d'années sur un CD intitulé Louise de Briceño, El Fénix de Paris. Alors voilà un programme qui nous amène en Espagne cette fois-ci. Alors là, c'est au XVIIe siècle. Et une Espagne dont la musique faisait danser dans les palais, les rues de Paris à la même époque.
On dansait beaucoup, oui, oui. Au début du XVIIe siècle, pas qu'en Espagne, un peu partout. Mais là, on va avoir un exemple parfait de symbiose entre la musique savante, dite savante, que l'on écrit, que l'on compose, et la musique improvisée aussi, la musique qu'on joue dans les rues, la musique qu'on joue dans les cabarets, dans les tavernes, que sais-je, et à la cour aussi du roi. Donc on n'a pas cette frontière qu'on peut imaginer entre ces pratiques, soit de cour ou de rue, ou religieuses même. Et on a un exemple parfait là de musique extrêmement vivante et qui groove, comme disent les jeunes.
Oui, qui groove, hein, comme on dit effectivement aujourd'hui. Oui. Alors, Louise de Briceño, je ne sais pas si Serge connaissait ce compositeur.
Non, absolument là,
c'est
pas.
C'est une découverte complète.
C'est effectivement un guitariste espagnol début 17e qui a écrit un traité, comment jouer la guitare, avec des exemples de chansons populaires mises en tablature.
Est-ce qu'il y a des pièces uniquement de ce compositeur dans ce programme, ou est-ce
Non, je crois qu'il y en aura d'autres aussi.
Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi un certain Francisco Berces. Un peu plus tardif,
plutôt
vers la fin du 17e.
Voilà, mais là aussi c'est un peu le même genre. Enfin, ceux qui aiment l'Espagne, c'est incontournable, là, il faut venir.
Et puis on aura le plaisir donc d'entendre le Poème Harmonique qui, je le précise pour ceux qui s'intéressent à la saison d'opéra au Capitole, donnera Armide en 2026 au Théâtre du Capitole. Et on va entendre la mezzo-soprano Isabelle Druet avec le Poème Harmonique donc au Théâtre Olympe de Gouges qui fut, c'était en 2010, révélation soliste lyrique aux Victoires de la Musique Classique.
Oui, très très belle voix, magnifique.
Et c'est elle qui avait enregistré donc ce CD avec le Poème Harmonique. Vous ne l'avez jamais reçu, je pense, au Festival Passion Baroque, le Poème Harmonique?
Non, c'est la première fois. On est en contact depuis quelques années. On avait toujours eu des petits soucis. Ça fait longtemps que je voulais les inviter. Des petits soucis d'agenda. Voilà. Vincent Dumestre, je le connais parce que quand j'avais donné l'Orfeo de Monteverdi, la production avec Jean-François Gardeil, alors en quelle année? Peut-être 2000 par là. Mais Vincent était venu jouer. Il jouait avec nous dans l'Orfeo, il jouait du théorbe. Et il serait très heureux de le retrouver.
Oui, parce que le Poème Harmonique, ce n'est pas une formation récente. C'est 1998, la fondation de l'ensemble.
Mmh,
donc
oui.
Voilà, c'est...
Ça ne nous rajeunit pas. Ça,
oui, mais oui, en 2000, il avait déjà créé le Poème Harmonique à l'époque. Alors, pour vous donner une idée de ce que vous allez entendre lors de cette soirée du vendredi 10 octobre, à 20h30, je rappelle, au Théâtre Olympe de Gouges, je vous propose d'écouter un extrait de ce CD, Louise de Briceño, El Fénix de Paris, enregistré en 2011 par le Poème Harmonique, Villano, El Caballo del Marqués.
Y me tiro en un camino a palos
Villano, El Caballo del Marqués, pièce de Luis de Briceño, extrait du CD du programme Danza, El Fénix de Paris, que donne le poème harmonique sous la direction de Vincent Dumestre, avec Isabelle Druet, la mezzo-soprano que vous venez d'entendre à l'instant, superbe voix. C'est le vendredi 10 octobre à 20h30 au théâtre Olympe de Gouges et le samedi 11 à midi à la Petite Comédie de Montauban. Vous présentez une lecture musicale, comme c'est le cas, je crois, lors de chaque édition. Passion Baroque étant un festival pluridisciplinaire où la littérature a droit de citer, cette année, ce rendez-vous a lieu autour d'un roman ayant pour titre 555, écrit par Hélène Gestern, qui avait reçu le grand prix RTL Lire magazine littéraire en 2022. La comédienne Nathalie Vidal va en lire des extraits, accompagnée par la violoncelliste Marjolaine Cambon. Et c'est un compositeur très prolifique qui est au centre de ce livre, Jean-Marc.
Oui, Scarlatti. 555, tout musicien doit ouvrir ses oreilles quand il entend ce nombre de 555. C'est le nombre de sonates composées par Scarlatti, sonates pour clavier. Et oui. Est-ce qu'il y a eu un récital au piano jacobin sur les sonates de Scarlatti?
Alors, il y avait eu l'an dernier, c'était Christiane Zacharias qui avait joué des sonates de Scarlatti.
Vrai.
Pas les 555.
Pas les 555.
Je me demande d'ailleurs s'il existe une intégrale des 555.
Oui, il y en a déjà quelques-unes. Le premier qu'il a fait, c'est Scott Ross. Oui, ouais. il y a longtemps. Hein.
Presque, il y a des gens qui vont écouter les 555.
C'est un corpus. C'est un corpus extraordinaire, hein, extraordinaire au clavecin.
Ah ben, il y a des merveilles. Ça, on peut en témoigner.
Fantastique, extraordinaire. Et donc, Hélène Gestern a eu l'idée de d'écrire ce roman que j'ai lu, que j'ai bien aimé. C'est une histoire, un roman un peu policier. On retrouve une partition qui a été oubliée dans un étui de violoncelle. Et puis cette partition disparaît. On la vole, et alors qui l'a volée, pourquoi, enfin, voilà. Donc Nathalie Vidal lira des extraits de ce livre et Marjolaine ponctuera la lecture de pièces pour violoncelle.
Nathalie Vidal, qui est une excellente comédienne, bien connue à Toulouse. Et donc, il y aura des œuvres pour violoncelle de Gabrielli, d'Alabaco, Scarlatti, mais Alessandro, le père de Domenico.
Oui.
Pas celui qui a composé les 555.
Et non, Domenico n'a pas écrit de pièces, à ma connaissance, n'a rien écrit pour violoncelle, le malheureux. Mais par contre, son père, oui, Alessandro, oui.
Et puis, il y aura aussi du Jean-Sébastien Bach pour illustrer cette lecture le 11 octobre à midi à la Petite Comédie de Montauban. Et puis, ce même samedi 11 octobre à 20h30 à l'église Saint-Jacques de Montauban, concert des passions associé au chœur Dulci Jubilo de Christopher Gibert. Vous allez diriger un programme sous-titré 1643, l'héritage italien. Cette fois-ci, vous nous emmenez à l'époque du baroque italien, mais un baroque italien qui a essaimé en France à la même période, notamment à travers l'œuvre de Marc-Antoine Charpentier, d'où cette expression l'héritage italien qui apparaît dans le sous-titre de ce concert.
Alors pourquoi 1643? C'est l'année de la mort de Monteverdi.
Et de Louis XIII
en même temps, oui. Et de la naissance de Charpentier. Et de Newton aussi, à peu près. Enfin, on ne sait pas s'il est 42 ou 43, mais voilà, ça donne un petit repère.
Quelle année, hein, hein,
ouais, une année remarquable. Donc voilà, j'ai remarqué cette conjonction-là et ça m'a donné l'idée de ce programme pour faire effectivement entendre la filiation et l'influence de cette musique italienne naissante, là, début du baroque, dont Charpentier va faire son miel en ayant pris des cours de composition à Rome avec Carissimi. Et Carissimi, c'est un petit peu le chaînon entre Monteverdi et Charpentier. Voilà comment j'ai conçu ce programme, que nous co-dirigerons avec Christopher Gibert. On partagera la direction.
Un programme que vous avez donné cet été au Festival de l'Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue.
Oui, on l'a donné au Festival de Beaulieu-en-Rouergue et on l'a redonné aussi au Festival du Périgord pourpre à Montpazier. Je peux vous dire que le public a été extrêmement ému, très très impressionné par la beauté de ses œuvres.
Il y aura notamment des extraits de l'opéra Jephté, je crois, de Carissimi.
Alors c'est un oratorio, c'est un intégral. On va donner l'oratorio intégralement, il dure 20-25 minutes. Et là c'est une histoire biblique tragique qui a été mise en musique donc, par Carissimi, un des premiers compositeurs d'oratorio. Et c'est une œuvre exceptionnelle, vraiment exceptionnelle, qui n'est pas souvent donnée. Et je suis très 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 heureux qu'on ait l'occasion de la redonner.
Eh bien, nous allons pouvoir en écouter un extrait de cet oratorio Jephté de Giacomo Carissimi. En voici donc un air dans une version de l'ensemble Il Giardino Armonico. Un air de Jefté, l'oratorio de Giacomo Carissimi, dans une version del Giardino Armonico. Il y a également l'ensemble, hein, l'intégrale de Jefté, dans le programme 1643, l'héritage italien que donnent les passions de Montauban et le chœur Dulce Jubilo, sous la direction de Jean-Marc Andrieux, samedi 11 octobre à 20h30 à l'église Saint-Jacques de Montauban. Pour conclure Passion Baroque 2025, double concert le dimanche 12 octobre à 15h et 17h30 à l'abbaye de Belperche, située, je l'ai dit en introduction de cette émission, sur la commune de Corde-Tolosane. On y retrouve votre orchestre des passions autour d'un programme de concerto pour flûte à bec. Et j'ai vu que le flûtiste était un dénommé Andrieux. Il est de votre famille peut-être ?
Un illustre inconnu peut-être, je ne sais pas.
Bon, oui, c'est vous, oui. C'est Jean-Marc Andrieux, évidemment.
Ouais, oui,
grand flûtiste à bec, je le dis pour lui, pour ne pas mettre à mal sa modestie, qu'il ne soit pas obligé de le dire lui-même.
Merci,
et
merci.
On le sait.
Merci, c'est gentil. Oui, non, c'est un instrument. Absolument. Vous savez très bien que c'est le plus bel instrument du monde, on est d'accord.
C'est pour ça que vous l'avez choisi.
Voilà, et tout oui. à fait. Et je veux vraiment faire tout mon possible pour le réhabiliter auprès du public. C'est vrai que la flûte à bec, on pense au collège,
oui.
on en a joué. C'est pas forcément un bon souvenir. Et c'est dommage, c'est vraiment très dommage, parce que c'est un bel instrument. Et justement, je me suis dit, c'est l'occasion de le mettre à l'honneur et de jouer des concertos pour montrer que c'est vraiment un instrument à part entière comme les autres.
Alors, vous allez nous jouer quelle pièce et de quel compositeur pour ces concertos pour flûte à bec ?
Alors, deux compositeurs, Telemann. Donc, pour terminer notre voyage, il fallait bien un compositeur allemand quand même dans le festival.
Ouais,
donc,
l'Allemagne était oubliée.
Et voilà, donc c'est Telemann qui a beaucoup écrit pour la flûte à bec. Alors, la flûte à bec, il y a deux concertos brandebourgeois de Bach dans lesquels il y a la flûte à bec. Il y a 13 cantates aussi où il utilise la flûte à bec. Il y a des concertos de Vivaldi. Pour citer des grands compositeurs, ils ont quand même utilisé la flûte à bec dans leurs œuvres. Handel aussi a utilisé la flûte à bec. Et Telemann, on lui doit la suite en la mineur, une suite de danse, qui en fait est un peu l'équivalent de la suite en si de Bach, mais pour la flûte à bec. Donc c'est une œuvre pratiquement aussi belle que la suite de Bach, très virtuose et qui fait voir beaucoup, beaucoup d'imagination de la part de Telemann, comme on le connaît. Je jouerai ensuite un concerto en do majeur du même Telemann, là aussi que j'ai déjà joué quelques fois, avec un menuet, là, enfin bon, vous allez découvrir un menuet magnifique. Et puis, j'aurai aussi plaisir, entre les deux œuvres, de jouer le concerto pour flûte à bec soprano de Sammartini,
Giuseppe Sammartini.
Voilà, qui n'est pas souvent joué et que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup étudié quand j'étais élève au conservatoire à Toulouse. Et je suis très heureux de pouvoir le jouer avec mon orchestre.
Qui est l'exact contemporain de Jean-Sébastien Bach, Sammartini. Il est mort en 1750 comme lui. Nous allons avoir le bonheur de vous écouter, Jean-Marc Andrieux, accompagné par les musiciens des Passions, dans une interprétation de la sonate en trio numéro 7 TWV 42 de Telemann. Vous jouez ici le premier mouvement, Vivace. Thank you. La sonate en trio numéro 7 TWV 42 de Georg Friedrich Telemann et son premier mouvement Vivace joué par Jean-Marc Andrieux à la flûte à bec, accompagné par les musiciens des Passions de Montauban. Les mêmes sont réunis pour la journée de clôture du festival Passion Baroque 2025 lors de deux concerts dimanche 12 octobre à 15h et 17h30 à l'abbaye de Belleperche sur la commune de Corps de Tolosane autour d'un programme de concerto pour flûte à bec de Telemann et Sammartini. Je ne voulais pas oublier, avant de tourner cette page consacrée à Passion Baroque, de parler de l'exposition Costumes en fête que vous organisez à la Maison du Crieur de Montauban du 2 au 29 octobre. Qu'est-ce qu'on va y voir, Jean-Marc ?
Des costumes.
Ah ben finalement tout était dans le titre.
Oui, des costumes surprise. Qui nous sont prêtés aimablement, je les remercie vraiment, par le Centre Musique Baroque de Versailles qui ont donc cette collection de costumes qui sont des copies des costumes des spectacles qui étaient donnés à l'époque de Louis XIV à Versailles.
Notamment les ballets équestres.
Notamment les ballets, les carousels, les ballets équestres avec les costumes, on est allé d'ailleurs les chercher à Versailles. Ils sont dans notre local, un lieu sûr, je peux vous dire que c'est impressionnant. Voir la beauté de ces costumes. C'est vraiment très, très beau. Pendant tout le mois d'octobre, on pourra venir les admirer à la Maison du Crieur. À Montauban, c'est juste à côté de la Place Nationale. Et un lieu patrimonial, là aussi, qu'il ne faut pas oublier de venir visiter.
Voilà, alors pour les amateurs de jolies choses, et notamment de jolis costumes, eh bien, il y a un vernissage qui est prévu le samedi 4 octobre à 11h45 à la Maison du Crieur de Montauban. Mais je crois que nous avons fait le tour de cette 11e édition de Passion Baroque. Serge, avant de conclure ce numéro, il nous reste deux concerts à annoncer, dont le concert de rentrée de l'Orchestre National du Capitole à Toulouse, ce samedi 27 septembre à 20h à la Halle aux Grains. Il est dirigé par Tarmo Peltokoski, comme je l'ai annoncé en début d'émission, mais il y a deux autres protagonistes lors de cette soirée, dont un Toulousain, parce que c'est une œuvre bien particulière qui est donnée à cette occasion.
Oui, alors il s'agit d'une œuvre monumentale, la Tourangalie, la symphonie d'Olivier Messiaen, évidemment, dont on a peut-être oublié que depuis le début du XXIe siècle, elle a été donnée 4 fois à Toulouse. Donc je voudrais quand même rappeler qu'en 2007, elle a été jouée donc par l'Orchestre National du Capitole, dirigée par le chef israélien Ilan Volkov, et le grand pianiste français Roger Muraro, qui est un grand spécialiste d'Olivier Messiaen également. Et puis en 2014, le 4 mars exactement, elle a été redonnée par l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine, qui était l'invité de la saison symphonique, placée sous la baguette du Britannique Paul Daniel, et le pianiste soliste n'était autre que Bertrand Chamaillou. La Britannique...
Autre grand passionné par la musique de Messiaen.
Évidemment. Et puis, on découvrait à cette époque-là la Britannique Cynthia Millar, qui était au clavier des ondes Martenot. Et puis, la même année, 2014, mais en décembre, de nouveau, à la saison des grands interprètes, était inscrite la même symphonie, jouée par le Budapest Festival Orchestra, qui était dirigé par Ivan Fischer, grand chef hongrois, évidemment. Oui. Et avec comme pianiste soliste Roger Muraro. Donc finalement, il y a un retour.
Il y a des spécialistes aussi de la musique de Messiaen, il faut dire.
Et l'ondiste s'appelait Valérie Hartmann-Clavery et qui était une élève de Jeanne Loriot, la belle-sœur du compositeur qui était spécialiste des ondes Martenot. Et enfin, en 2016, en janvier, de nouveau dans la saison des grands interprètes, c'était l'Orchestre symphonique Simon Bolivar, du Venezuela, dirigé par Gustavo Dudamel, son fondateur, donc, qui offrait là également sa vision de la Tourangalila. Et la pianiste, la soliste, était Yuya Wang, que l'on a connue depuis
à Toulouse. Et que l'on va revoir bientôt à Toulouse, d'ailleurs.
Et l'ondiste était de nouveau Cynthia Millar. Donc, on retrouve les grands spécialistes de cette œuvre. Et donc, on est tout content d'écouter de nouveau cette œuvre avec un piano solo qui est qualifié par Messiaen lui-même d'une extrême difficulté. Ça, ce sont les termes de Messiaen, destiné à diamanter l'orchestre de très brillants, de grappes d'accords, de chants d'oiseaux. Donc, on est tout heureux de retrouver cette Tourangalila dont le nom signifie, d'après Messiaen, chant d'amour.
Touranga et Lila. En fait, c'est la contraction des deux termes.
Oui,
Touranga
oui, oui.
Et Lila.
Et ça, ça signifie
c'est du sanskrit, hein.
Chant d'amour, hymne à la joie, temps, mouvement, rythme, vie et mort. Donc, vraiment, des éléments fondamentaux. Alors, je rappelle qu'il y a 10 mouvements dans cette symphonie qui s'enchaînent.
Hein, ça dure 1h15, 1h20.
Voilà, oui, avec des titres dignes de Messiaen, notamment « Joie du sang des étoiles » ou « Jardin du sommeil d'amour ». Tout ça, c'est une poésie incroyable.
Et donc, nous aurons Bertrand Chamaillou au piano.
Et oui, notre Bertrand Toulousain, Chamaillou, voilà.
Et Cécile Lartigot aux ondes Marteneau, qui est une spécialiste de cet
grande
instrument.
Grande spécialiste de cet instrument. Donc, voilà, un concert.
Alors, pour la petite histoire, je vais rappeler que l'œuvre a été composée par Messiaen entre 1946 et 1948, commandée en 1945 par le chef Serge Koussevitzky. La création mondiale a eu lieu le 2 décembre 1949. C'est l'Orchestre symphonique de Boston qui l'a créé sous la direction de Leonard Bernstein avec Yvonne Loriot, la femme de Messiaen au piano, et Ginette Marteneau, pianiste et ondiste, sœur de Maurice Marteneau, le créateur de l'instrument.
Créateur de l'instrument. Et alors, ce qui est amusant, c'est que dans sa commande, Koussevitzky a dit « Faites-moi l'œuvre que vous voulez, dans le style que vous voulez, avec la composition instrumentale que vous voulez. » Donc on ne peut pas dire « Olivier Messiaen avait toute liberté. »
Carte blanche.
Jean-Marc Andrieux, qu'est-ce que le baroque pense de la Tourangelle et la symphonie de Messiaen?
J'aime beaucoup. J'ai toujours le disque vinyle par Seiji Ozawa, l'orchestre de Boston, je me souviens. Et je l'ai beaucoup écouté et je trouve ça extraordinaire.
C'est vrai, c'est une œuvre complètement à part.
Si quelqu'un veut découvrir l'orchestre symphonique, aller écouter ce concert, quelqu'un qui n'a jamais entendu de musique classique, il peut prendre une claque monumentale.
Nous allons écouter le cinquième mouvement de la Tourangelle, la symphonie, intitulé « Joie du sang des étoiles ». Vous en parliez il y a quelques instants, Serge. C'est dans une version avec le pianiste Roger Muraro, comme on l'a dit, autre grand passionné par l'œuvre d'Olivier Messiaen. Le cinquième mouvement, Joie du sang des étoiles de la Tourangelle, la symphonie, dans une version enregistrée par le pianiste Roger Muraro. Mais c'est donc Bertrand Chamaillou qui va œuvrer au piano avec Cécile Lartigot aux ondes Marteneau lors du concert de l'Orchestre National du Capitole ce samedi 27 septembre à 20h à la Halle aux Grains. Concert dirigé par Tarmo Peltokoski. Et enfin, lundi 29 septembre à 19h30 à la Chapelle des Carmélites à Toulouse. Premier concert de la saison 25-26 des Clés de Saint-Pierre. Le programme est sous-titré « Cordes sensibles » et l'on y trouve deux œuvres pour quatuor à cordes très célèbres. Serge, je vais vous laisser nous révéler lesquelles et par quels musiciens elles vont être jouées.
Oui, alors c'est en fait un des concerts hors les murs, puisque ça n'est pas à Saint-Pierre-des-Cuisines, mais à la Chapelle des Carmélites, qu'aura lieu ce concert avec deux des plus célèbres quatuor à cordes du romantisme, avec le quatuor à cordes numéro 12, dit « Américain » d'Anton Dvorak, qu'il a composé en même temps que sa fameuse Symphonie du Nouveau Monde, et puis de Franz Schubert, le quatuor à cordes numéro 14 en ré mineur, La jeune fille et la mort, qui est une merveille absolue, évidemment. Deux œuvres très différentes l'une de l'autre, puisque chez Dvorak, c'est un peu l'élan lumineux qui domine, hein, qui distille...
Son émerveillement de découvrir aussi les paysages américains,
de découvrir les
beautés. Lorsqu'il avait été nommé directeur du Conservatoire de New York.
Eh oui, exactement. Là, c'est une joie à la fois pleine de nostalgie, mais nourrie aussi de souvenirs de bohème. Hein,
parce qu'il y a la nostalgie du pays aussi.
Il intègre des thèmes populaires de sa bohème natale. Et puis donc chez Schubert, alors c'est l'angoisse bouleversante de La jeune fille et la mort, sur laquelle il a composé un lied très célèbre, évidemment. Donc c'est d'une intensité dramatique qui vraiment touche droit au cœur, là, ce quatuor fabuleux.
Qui sont les quatre musiciens?
Alors, les quatre musiciens, il y a des musiciens que l'on connaît, évidemment, à l'Orchestre National du Capitole. Il y a Fabien Mastrantonio, qui est lui originaire de Metz, hein, et qui s'est installé à Toulouse en 2003. Il y a Haruka Katayama, une violoniste japonaise.
Ouais, ça, c'est les deux violonistes.
Voilà, les deux violonistes. Et elle est violoniste au Capitole depuis 2023, donc relativement récemment. Et puis Vincent Casanavpin, qui est l'altiste. C'est en 2008 qu'il a intégré l'orchestre. Et enfin, Vincent Poucher, violoncelliste, qui s'est formé à Lyon.
Ah, lui, c'est un ancien de l'orchestre.
Un ancien, 2004. Hein, et c'est le deuxième soliste du pupitre de violoncelle de l'orchestre. Il est également directeur artistique de l'Orchestre de Catalogne. Donc, c'est ces quatre musiciens très habitués à jouer ensemble qui donneront ce concert de musique de chambre.
Et pour terminer cette émission, voici le deuxième mouvement Andante con moto du quatuor à cordes numéro 14 en ré mineur, La jeune fille et la mort de Franz Schubert. Le deuxième mouvement, Andante con moto du quatuor à cordes numéro 14, La jeune fille et la mort de Franz Schubert, dans une version du quatuor Modigliani. C'est l'une des œuvres au programme du concert Cordes Sensibles qui ouvre la saison 25-26 des Clés de Saint-Pierre, lundi 29 septembre à 19h30 à la chapelle des Carmélites de Toulouse. Billetterie en ligne à l'adresse www.lesclésdesaintpierre.org. Je rappelle d'autre part que 5 représentations de Thaïs, l'opéra de Jules Massenet, sont données au Théâtre du Capitole du 26 septembre au 5 octobre et que le concert de rentrée de l'Orchestre National du Capitole a lieu ce samedi 27 à 20h à la Halle aux Grains. Les places, s'il en reste, sont achetées sur les sites www.opera.toulouse.fr et www.onct.toulouse.fr. Je rappelle également que le festival Piano Jacobin se poursuit jusqu'au 30 septembre et que vous pouvez vous renseigner, réserver et acheter vos places en ligne en vous connectant à l'adresse www.pianojacobin.com. Je rappelle enfin que la 11e édition du festival Passion Baroque se tient du 2 au 12 octobre à Montauban et dans divers lieux du Tarn-et-Garonne. Le détail de la programmation est consultable sur le site www.les-passions.fr et la billetterie est en ligne à l'adresse www.passionbaroque.festif.net. Merci infiniment à Serge Chosy qui a co-animé cette émission avec moi et à Jean-Marc Andrieux d'en avoir été l'invité d'honneur. Tous mes remerciements à Yannick Galupini pour la réalisation de ce numéro dont le podcast est téléchargeable dès aujourd'hui sur le site web de Radio Présence. Et merci bien sûr à nos auditeurs de leur fidélité. Excellente semaine musicale à tous.